Le lundi, consacré également à l'actualité américaine sur le front politique et sur le front économique. Et c'est notre rendez-vous, ce quart d'heure américain, avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, en visioconférence avec nous. Bonjour Pierre-Yves, merci beaucoup. Ravi de redémarrer cette semaine à vos côtés pour évoquer l'actualité américaine. Je le disais en introduction, Chris Waller est donc ce gouverneur de la Réserve fédérale américaine qui aura gagné des galons au cours des deux dernières années. C'est décidément l'homme qui monte au sein du board des gouverneurs.
Pour le moment, tant que sa prise de position, son pari assez osé se vérifie, il est en train de marquer des points, mais attention, ses adversaires en tout cas, ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord avec son approche et pensent qu'il a pris des risques, ne manquent pas de souligner, on va le voir, que le match n'est pas terminé. De quoi s'agit-il? Alors, est-ce que vous connaissez William Beveridge,
Grégoire? Oui, alors je connais la courbe de Beveridge, donc j'imagine que c'est l'auteur de cette théorie sur la relation entre le travail et l'inflation.
Ça n'est pas le nouvel arrière-droit de Manchester City. C'est un économiste britannique qui a formalisé la relation intuitive, d'ailleurs, entre les offres d'emploi non pourvues, relation inverse, avec le taux de chômage. Et l'interprétation de cette courbe, qui s'est vérifiée dans les travaux de William Beveridge dans les années 30 et dans les années 40, est employée depuis. Le problème, c'est que plus rien ne se passe vraiment normalement dans l'économie américaine avec la sortie du confinement, et que, pour revenir à lui, donc Christopher Waller a osé dire, début 2022, « Eh bien, vous savez quoi? Il y a tellement d'offres d'emploi non pourvues, le volume est tellement élevé, on était, je dirais de mémoire, au-delà de 12 millions, qu'il est probable que même une forte remontée des taux d'intérêt n'ait pas pour effet à moyen terme de relancer fortement le chômage. C'était un pari qui, pour l'instant, est un pari qui semble gagner, puisque le chômage aux États-Unis, en dépit d'un relèvement massif des taux d'intérêt depuis mars 2022, est autour de 3,7% et qu'on est dans une période toujours de quasi plein emploi. Ce pari a été adopté par Jerome Powell qui a dit « Banco, relevons les taux d'intérêt massivement, corrigeons ce qu'ils ne veulent pas admettre comme une erreur, mais ce qui apparaît tout de même comme un manque d'anticipation de la forte poussée de l'inflation ». Pour le moment, ça marche. Le taux de chômage reste extrêmement faible. La désinflation est engagée. Et le nombre d'offres d'emploi non pourvues a baissé, encore qu'il n'est pas tellement baissé. Il est même un petit peu remonté depuis quelque temps. Alors, le match n'est pas fini. C'est ce que disent des gens tout aussi éminents que Christopher Waller. Je pense notamment à Olivier Blanchard, ancien professeur d'économie à MIT, ancien... patron de la recherche économique au FMI. C'est ce que dit Larry Summers. Il avait d'ailleurs, avec M. Blanchard, publié un paper à ce propos en août 2022. Paper dans lequel il soulignait des erreurs probables, selon eux, commises par la Réserve fédérale dans ses calculs sur cette courbe de Beveridge. Pour l'instant, ils reconnaissent que Christopher Waller a tout bon, mais que le match n'est pas fini. D'abord, on a vu qu'au mois de janvier, on a eu des chiffres de l'inflation qui étaient un petit peu décevants. Alors, attendons de voir ce qui va se passer en février. Et Christopher Waller, âgé de 64 ans, économiste du Minnesota, qui a enseigné l'économie à l'université de Notre Dame, dans l'Indiana, qui est un personnage qui a été choisi comme gouverneur par Donald Trump. Il y en a quelques-uns comme ça, Jerome Powell, par exemple. Comme il semble avoir eu tout bon dans ce pari osé jusqu'à présent, voit son étoile monter et on commence à mentionner son nom comme un éventuel successeur de M. Jerome Powell, dont le mandat en tant que président du Conseil des gouverneurs expire en mai 2026. Christopher Waller est un républicain et il a deux qualités très importantes chez les économistes américains. D'abord, il a beaucoup d'humour. Ensuite, c'est quelqu'un qui ne se cache pas systématiquement derrière des équations pour s'exprimer, mais c'est un professeur d'économie aussi. Il a beaucoup enseigné. Il enseignait sans notes, les mains dans les poches. Et c'est quelque chose qui a marqué ses étudiants et qui facilite la transmission du message de la Réserve fédérale, notamment au Congrès, mais aussi aux économistes et au public et aux marchés financiers.
Vous avez vu que le dernier pari de certains économistes de Wall Street, je cite le chef économiste d'Apollo Global Management, Thornton Slock, qui est passé lui aussi par le FMI, hein, grand économiste réputé, en tout cas économiste de marché, le dernier call à la mode, c'est de dire que la Fed ne baissera pas ses taux cette année. Hein.
Ben, écoutez, si l'économie américaine continue de se porter aussi bien, Christopher Waller, dans son intervention il y a une quinzaine de jours, l'a dit, moi je veux encore quelques mois pour vérifier que l'inflation est bien en train de se calmer. Il est le premier à faire preuve de prudence, il est loin de crier victoire. La surprise de cette économie américaine en croissance de l'ordre de 3%, semble-t-il encore au cours des derniers mois, est quelque chose qui rend tout à fait probable de mauvaises surprises sur le plan de l'inflation, ne serait-ce qu'un simple arrêt de la désinflation. Serait une surprise désagréable. Donc, le match est loin d'être terminé et cela encourage beaucoup d'investisseurs à continuer d'acheter des obligations courtes qui vous produisent toujours du 5,3% plutôt que d'aller au-delà à 5, 6, 7 ans.
Très bien payé pour attendre, effectivement, sur la courbe des taux aujourd'hui. Le CPI de janvier a été un peu plus inquiétant, le corps PCE n'a pas franchement rassuré, donc les prochaines données d'inflation pour le mois de février seront évidemment des données toujours aussi importantes pour la Réserve fédérale américaine. Rappelons que cette semaine, c'est l'emploi qui sera à la une, on aura toutes les données d'emploi, les ouvertures de postes et le rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié ce vendredi pour le mois de février. Pierre-Yves, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, est-ce que c'est ce que pensent les démocrates du Sénat après que Mitch McConnell, le leader des républicains au Sénat, a annoncé son départ après l'élection de novembre.
Mon Dieu, qu'il est détesté, Mitch McConnell. Qu'il est détesté de la presse bien pensante, pléonasme que vous me pardonnerez, qu'il est détesté des démocrates. Et pourtant, il est respecté. Il est respecté par le président Biden, qui a été sénateur Biden pendant des années, qui connaît très très bien Mitch McConnell, qui dirige le groupe républicain au Sénat depuis 2007, mais qui a été élu sénateur de Kentucky en 1984. J'étais là, je m'en souviens. Mitch McConnell est une personnalité qui a 82 ans aujourd'hui et qui nous a annoncé la semaine dernière qu'elle renoncerait à son poste de leader du groupe républicain au Sénat en novembre, c'est-à-dire au terme des élections législatives de novembre. Alors c'est très très important, parce que Mitch McConnell était la plus grande personnalité républicaine élue d'autorité qui était ouvertement anti-Trumpiste. Et le Parti républicain, qui est en train de se Trumpiser massivement, pouvait encore se référer à Mitch McConnell. Et Mitch McConnell est en train de vous annoncer qu'il va passer la main, ce qui nous ouvre la possibilité, en cas de victoire de Donald Trump le 5 novembre, d'avoir un parti républicain qui aurait non seulement la Maison-Blanche, mais probablement aussi, et je vais vous expliquer pourquoi, la majorité au Sénat, et qui serait un parti encore plus trumpiste qu'il ne l'est devenu depuis quelques mois, ce qui fait très peur aux démocrates et au New York Times, qui vont en venir à regretter Mitch McConnell, qui était un atlantiste, qui était un libre-échangiste, qui était un conservateur bon teint, mais sur lequel on pouvait compter, parce qu'en gros, c'était un réganien, ça n'était pas un populiste, et en cela, il s'oppose radicalement à cette nouvelle vague trumpiste des républicains. N'oublions pas que le 5 novembre, un tiers du Sénat est renouvelé, 20 sièges de sénateurs démocrates doivent être renouvelés, mais 10 sièges de républicains seulement doivent être renouvelés. Or, sur ces 10 sièges, tous sont dans des États qui ont déjà voté largement pour Donald Trump il y a 4 ans. Tandis que pour les 20 sièges démocrates, ça n'est pas le cas. La marge de victoire de Biden dans ces États-là était très faible. Donc, les démocrates ont peur de perdre le Sénat et le renoncement de Mitch McConnell à son poste extrêmement important, où on a beaucoup de pouvoir quand on est président même de la minorité du Sénat, et encore plus quand on est président de la majorité du Sénat, cette vacance ouvre la possibilité qu'il se passe des choses au Sénat qui rendent le Sénat encore plus trumpiste.
Oui, c'est d'une certaine manière ce que dit Mitch McConnell, c'est les trumpistes l'ont emporté désormais au sein du grand parti, quoi.
C'est, je dirais, à la fois une manière de tourner la page d'un point de vue idéologique, mais aussi de tourner la page d'un point de vue générationnel. La nouvelle génération de républicains n'est plus réganienne systématiquement par défaut, comme elle l'a été de fait depuis les années 80. Maintenant, les nouveaux républicains sont plutôt populistes et plutôt trumpistes. Qui pourrait succéder à Mitch McConnell ? Il y a trois John que l'on donne. Deux d'entre eux ne sont pas des trumpistes de la première heure, mais se sont ralliés à Donald Trump parce que ce sont des pragmatistes et qu'ils ont compris que Donald Trump faisait voter des gens pour les républicains et qu'on a besoin de Donald Trump pour se faire élire comme républicain aujourd'hui. Et puis, M. Barroso, qui est sénateur du Wyoming, lui est ouvertement trumpiste, et donc un de ces trois John, John Cornyn, John Barroso et John Thune, pourrait succéder à Mitch McConnell dans des degrés de trumpisme plus ou moins affichés, mais d'autres successeurs sont possibles. Tim Scott, qui ne cesse de clamer les louanges de Donald Trump, qui est sénateur de Caroline du Sud, s'il n'était pas choisi comme colistier de Donald Trump, pourrait faire, aux yeux de Donald Trump, un excellent président d'une majorité républicaine au Sénat.
Bon, l'emploi américain cette semaine sur le terrain économique et le Super Tuesday demain sur le terrain politique, bien sûr, même si je crois que tout le monde a un avis assez tranché sur qui sera le candidat républicain pour cette élection présidentielle. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain à retrouver en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.